Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est devenu Bachar al-Assad? Un texte de Magdalene Boutros, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, tout bascule en Syrie. Après 53 ans de règne sanguinaire, le clan al-Assad tombe. Au terme d'une offensive fulgurante, les forces d'opposition entrent dans la capitale, Damas. Sans même envoyer un dernier message à son peuple, le président Bachar al-Assad est exfiltré de son pays par son allié russe. Depuis, il se terre dans la capitale moscovite, dans le faste et à l'abri des poursuites. Lorsque le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham franchit les portes de Damas 11 jours après avoir lancé son assaut, le palais présidentiel est déjà abandonné. Derrière elle, la famille al-Assad a laissé une impressionnante collection de voitures de prestige, des objets luxueux et un bunker relié à un réseau de tunnels. C'est probablement par là que le président a pris la fuite, orchestré avec l'aide des services secrets russes. Après avoir quitté le palais présidentiel, Bachar al-Assad se rend à un aéroport de la banlieue de Damas pour ensuite s'envoler vers un aéroport militaire russe sur la côte syrienne et embarquer à bord d'un vol fantôme à destination de Moscou. Le 9 décembre 2024, c'est le Kremlin lui-même qui annonce que Bachar al-Assad se trouve à Moscou, qu'il démissionne, après 24 ans de règne, de son poste de président de la Syrie et qu'il a ordonné un transfert pacifique du pouvoir. Le Kremlin ajoute que le président russe, Vladimir Poutine, lui a personnellement offert l'asile politique. Entente avec l'opposition. Ce n'est qu'une semaine plus tard que le président déchu fait sa première déclaration publique sur Telegram, qui sera aussi sa dernière avant de disparaître des écrans radars. Bachar al-Assad se défend d'avoir abandonné son peuple. Il affirme qu'il n'a fui Damas qu'après sa chute aux mains des terroristes et que c'est le Kremlin qui a exigé une évacuation immédiate vers la Russie. Selon des sources citées par des médias russes, son départ faisait partie d'une entente scellée avec les forces d'opposition pour garantir la sécurité des bases militaires russes de Tartous et de Maïmim en Syrie, les seules à l'extérieur de l'ex-bloc soviétique. Sur Telegram, un ambassadeur russe à Vienne, Mikhail Ulyanov, ajoute « La Russie n'abandonne pas ses amis dans les moments difficiles ». Une décennie plus tôt, la Russie avait permis à Bachar al-Assad de se maintenir au pouvoir alors qu'il se trouvait en mauvaise posture dans la guerre civile qui l'opposait depuis 2011 à des forces rebelles. À partir de septembre 2015, des frappes aériennes russes, jumelées à un appui stratégique de Moscou, avait permis de contrecarrer la poussée des rebelles, permettant au régime non seulement de survivre, mais aussi d'accentuer sa répression. Liens étroits avec la Russie. La relation privilégiée de la Syrie avec la Russie date du règne d'Hafez al-Assad, le père de Bachar. Dans la foulée de l'alliance stratégique de 2015, la famille se rapproche encore plus de son allié russe. En 2017, les trois enfants de Bachar, Hafez, 16 ans à l'époque, Zayn, 14 ans, et Karim, 13 ans, passent l'été au célèbre camp Artek en Crimée dans l'objectif de mieux comprendre la Russie, dira leur père. Quelques années plus tôt, en 2014, la Russie avait annexé illégalement la Crimée, un territoire ukrainien. Déjà, les trois adolescents parlaient le russe, inclus dans le cursus scolaire syrien dans la foulée du rapprochement avec Moscou. Le fils aîné de Bachar, Hafez, qui porte le prénom de son grand-père, s'inscrit par la suite en mathématiques pures à l'université MGIMO de Moscou. En juillet 2023, il obtient son diplôme. Sur une photo prise à sa collation des grades, on le voit en compagnie de sa mère, Asma al-Assad. Celle-ci est alors en rémission d'un cancer du sein. Mais en mai 2024, Damas annonce que la première dame a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, un cancer agressif. Certains croient que la qualité des soins de santé offerts à Moscou pourrait avoir influé sur la décision de la famille al-Assad de partir vers la Russie en décembre 2024. Asma séjournait d'ailleurs déjà régulièrement à Moscou pour se faire soigner. Secrets et rumeurs. Quelques semaines après sa fuite de Damas, le couple al-Assad fait déjà l'objet de rumeurs sur son union. Asma aurait demandé le divorce et souhaiterait rentrer au Royaume-Uni où elle est née et a grandi, raconte-t-on. Le Kremlin dément rapidement et Londres fait savoir qu'Asma, visée comme son mari par des sanctions occidentales, n'est pas la bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, précise même qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'aucun membre de la famille ne trouve refuge au Royaume-Uni. Depuis, peu d'informations ont filtré sur la vie moscovite de la famille Al-Assad. Elle partagerait son temps entre un appartement de luxe du quartier Moskva City, où des membres du clan Al-Assad ont acheté une vingtaine d'appartements à coups de millions de dollars au fil de la dernière décennie, et une villa de la banlieue de Moscou. La sécurité de la famille serait assurée par les services secrets russes. En échange, le clan Al-Assad accepterait de garder profil bas. Plusieurs membres de la famille élargie et des ex-officiers de l'armée auraient également trouvé refuge dans le même quartier huppé de Moscou, jonché de gratte-ciel. Selon le journal allemand Die Zeit, Bachar passerait une bonne partie de son temps à jouer à des jeux vidéo. En septembre 2025, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté que l'ex-président avait été empoisonné puis soigné dans un hôpital privé de Moscou, une nouvelle qui a été aussi démentie par le Kremlin. Bien que l'ex-président Assad soit visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre, il y a peu de chances que cela lui cause des ennuis et que la Russie l'extrade. Le président Poutine est lui-même visé par un tel mandat qu'il rejette. Et plusieurs autres réfugiés notoires, dont l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych, l'ex-président kirghiz Askar Akayev et le lanceur d'alerte états-unien Edward Snowden, bénéficient depuis de nombreuses années des largesses de la terre d'asile russe. C'était « Qu'est devenu Bachar al-Assad », un texte de Magdalene Boutros, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Jeanne Carrière, jeune scénariste réalisatrice tétraplégique, sort son premier court-métrage. Un texte d'Aline Vancompernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad. La première femme tétraplégique scénariste réalisatrice du Québec et probablement du Canada. Un titre que Jeanne Carrière n'aurait certainement pas pensé porter quand elle a commencé ses études à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, en 2019, après des études collégiales en travail social. Lauréate en 2023 du sélectif concours « Cours écrire ton cours » organisé par la SODEC, Jeanne Carrière achève, à l'aube de ses 30 ans, son premier court-métrage. Un gros accomplissement et une très grande fierté pour la jeune professionnelle qui se relève avec brio de son accident survenu le 15 décembre 2021. Jeanne Carrière a choisi une profession hors du commun. C'est aussi une des seules professions qu'elle puisse occuper avec peu d'aménagement, ou presque, dans sa vie quotidienne. Le terme « ou presque » n'est pas peu dire, car s'il est vrai que le plus gros du travail de scénariste peut facilement être accompli de chez elle devant un ordinateur, il en est tout autre pour celui de réalisatrice au moment du tournage. Une adaptation jamais réalisée auparavant a dû être mise en place pour monter Jeanne en montagne, à Val-des-Lacs, près de Tremblant, et lui permettre d'accéder à son lieu de tournage et à ses bisons, indispensables à la réalisation du film. Sélectionnée par le jury. Citation : Mon court-métrage n'aurait jamais pu voir le jour sans la bourse fort importante que j'ai reçue de la SEDEC, la Société de développement des entreprises culturelles. Fin de citation, mentionne Jeanne avec conviction. Mais c'est sans équivoque son talent de scénariste qui a fait la différence lors de la sélection par le jury en mars 2023. Pour Jeanne, tout a commencé quelques jours avant son accident, le 1er décembre 2021. Afin de déposer son scénario à temps pour le concours « Cours écrire ton cours », compétition réservée aux artistes émergents et permettant de dénicher les nouveaux talents, elle écrit son histoire en une journée à peine. Malgré le manque de temps pour réviser son texte, alors qu'elle le fait habituellement, Jeanne a la chance de voir son scénario sélectionné avec 6 autres parmi plusieurs centaines de scripts en compétition. C'est cependant depuis sa chambre aux soins intensifs de l'hôpital Sacré-Cœur, au réveil de son accident, que la jeune femme apprend la nouvelle. Elle, qui devait se rendre dans diverses régions du Québec pour participer à une série de masterclass avec des scénaristes chevronnés et tenter sa chance de remporter le Grand Prix, passe l'année 2022 hospitalisée. C'est durant cette période que Jeanne bénéficie d'une chirurgie des mains à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une chirurgie des transferts nerveux et tendineux. Lauréate du concours. Qu'à cela ne tienne, Jeanne est persistante. Citation. J'ai demandé à mon père s'il pouvait contacter la SEDEC et demander si je pouvais redéposer le même projet à un autre moment en fonction de ma santé. Fin de citation. Cela lui est autorisé. Un an plus tard, en décembre 2022, avec un scénario amélioré, la SEDEC sélectionne à nouveau sa candidature. Et la voilà, en février 2023, 6 semaines à peine après sa sortie de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, IRGLM, parcourant les routes de Québec à Montréal, accompagnée de ses parents qui lui prodiguent les soins nécessaires à sa présence pour des classes intensives démarrant à 8 heures chaque matin. C'est finalement un mois plus tard, à Saguenay, qu'elle est récompensée de sa ténacité. Elle a gagné le droit de réaliser son premier court-métrage, accompagné d'une belle enveloppe de 130 000 $. Citation. J'étais très émue. Je flottais littéralement. Fin de citation, se souvient Jeanne. L'aventure commence alors. Pas aussi rapidement et facilement que Jeanne l'aurait certainement souhaité. Une plaie de siège l'oblige à rester couchée sur le côté d'avril à décembre 2023 et des hospitalisations sont requises en 2023 et 2024. Finalement, en novembre 2024, le film Bigfoot est tourné. Une histoire de 21 minutes que la scénariste-réalisatrice situe dans la vallée de Harrington, dans les Laurentides, avec Antoine Bertrand dans le rôle principal. Citation. Nous avons tourné intensivement pendant 4 jours. J'ai tout donné. Fin de citation. Se souvient Jeanne, qui a dû passer quelques jours à l'hôpital après le tournage, mais raconte l'événement comme une anecdote faisant partie de l'aventure. Des histoires inspirées. Bigfoot s'inspire d'une expérience vécue par Jeanne lors de ses études en travail social. Elle s'intéresse aux violences conjugales, mais en se plaçant du côté de l'homme qui commet ces violences, en faisant la comparaison avec la bête qui est en lui, représentée par les bisons dans le film. Citation. Le personnage prend lui-même conscience de sa toxicité et de sa violence. Je voulais inviter l'homme à la table de discussion, tout en faisant une métaphore entre l'humain et l'animal. Fin de citation, explique la réalisatrice. Toutes les histoires de la jeune artiste reposent sur sa volonté de transmettre un message en choisissant de parler de sujets souvent tabous dans la société. En empruntant cette voie, Jeanne Carrière dit vouloir faire œuvre utile et se lancer des défis. Citation. Je me suis demandé ce dont j'avais le plus peur de parler, ce qui me mettait le plus mal à l'aise et je me suis poussée à travailler dessus. Fin de citation. Jeanne est un bourreau de travail qui a le diable au corps. 45 heures par semaine ne sont presque pas assez pour venir à bout de cette insatiable volonté d'aller plus loin, au-delà des limites de son imagination qu'elle exprime en prose, au-delà des restrictions de son corps qui la freinent, parfois, au passage. Citation. J'ai beaucoup appris de cette première expérience professionnelle. Je suis motivée à créer de nouvelles œuvres cinématographiques qui seront portées au grand écran. Je souhaite vivement obtenir un financement gouvernemental pour produire mon second court-métrage qui s'intitule « Maternelle » et plusieurs autres par la suite. Je caresse aussi le rêve que les festivals du monde entier s'intéressent à mon cinéma et qu'ils le diffusent. Fin de citation, sourit Jeanne. Une trajectoire toute tracée que, sentant sa santé fragile et animée d'une urgence de vivre, Jeanne Carrière veut s'empresser d'accomplir. Bonne chance à toi, Jeanne. L'accessibilité au plateau de tournage quand on est réalisatrice en fauteuil. Jeanne Carrière a passé 2 fins de semaine en novembre 2024 sur le premier plateau de tournage adapté jamais créé au Québec pour une réalisatrice tétraplégique, et ce, grâce au soutien financier du CALQ, Conseil des arts et des lettres du Québec. Citation. il y avait déjà eu des adaptations de tournage pour des acteurs en fauteuil, mais pas pour la réalisatrice. Fin de citation, décrit la jeune artiste. Et qui dit première fois, dit adaptation et innovation. Citation, c'est vrai que je ne l'ai pas fait facile. J'ai voulu me rendre en terrain montagneux, près de Tremblant, pour filmer les bisons, essentiels au tournage. On a créé une remorque spéciale, avec ancrage fixe pour stabiliser mon fauteuil motorisé, le tout tiré par un véhicule de type 4x4. J'avais plusieurs ordinateurs et équipements techniques avec moi. Fin de citation, raconte Jeanne. Durant tout le tournage, elle était installée sur un fauteuil motorisé. Les scènes tournées étaient projetées au même moment sur un écran face à ses yeux, accroché à son fauteuil. Jeanne se souvient du moment où on retirait l'écran à la fin de la journée. Citation, « Je voyais encore le moniteur dans mes yeux. » Fin de citation. Bien qu'elle ne parvienne pas à appuyer sur le bouton d'un walkie-talkie pour parler et donner ses directives, la réalisatrice devait travailler avec cet équipement indispensable pour elle. C'est ainsi qu'une personne de l'équipe technique devait appuyer à sa place chaque fois qu'elle voulait parler. Elle se jure de mieux l'adapter la prochaine fois. Il lui a aussi fallu une équipe de professionnels de la santé à ses côtés. Une infirmière présente 24 heures sur 24, une ergothérapeute ainsi qu'un ambulancier en cas de complications. Un lit adapté et un lève-personne étaient également sur place. Malgré ses soins préventifs et l'installation de coins chauffés, Jeanne a connu deux épisodes d'hypothermie durant le tournage. La jeune réalisatrice garde cependant un très bon souvenir de son premier tournage professionnel et de son équipe dévouée d'environ 60 personnes. Citation, c'était différent des autres lieux de tournage. D'habitude, il y a beaucoup de bruit sur un plateau. Pour m'accommoder, sachant que ma voix ne porte pas beaucoup, les gens ne devaient pas parler fort ou se mettre sur les côtés, sinon je ne les voyais pas. Tout le monde était en cocon autour de moi. Ça a rendu le film très humain. Fin de citation, sourit la réalisatrice. Elle mentionne également que ses parents, qui sont les personnes qui la soutiennent et l'encouragent le plus dans sa carrière, étaient présents à ses côtés tout au long du tournage et lors de chacun de ses déplacements. C'était Jeanne Carrière, jeune scénariste-réalisatrice tétraplégique, sort son premier court-métrage. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad.
Le village de Petit-Saguenay doit se réinventer après la fermeture de l'aciérie, un texte d'Alexis Riopel paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir. Denis Gaudreau, un homme de 59 ans aux muscles nerveux et au tempérament inarrêtable, travaillait jusqu'à tout récemment à la série de Petit-Saguenay, comme 20 autres hommes et femmes. Il était rentré très jeune à l'usine de sciage de son village, puis avait occupé presque tous les postes. « J'ai passé ma vie dans les scieries », souligne-t-il, attablé dans sa modeste maison blanche. « On a mis tellement d'efforts là-dedans. » À la mi-novembre 2025, un coup de tonnerre a résonné dans le village de 600 personnes. La scierie ferme. Certains l'avaient vu venir. La modernisation de l'usine amorcée durant la pandémie n'avait jamais été achevée à cause de l'explosion généralisée des coûts. Petit-Saguenay, fondé au 19e siècle à l'odeur des moulins assis, paraît ainsi refermer un grand chapitre de son histoire, quoique le propriétaire de la scierie soit toujours à la recherche d'un repreneur. Le bois fait partie des racines de notre village, souligne Myriam Boudreau, une mesureuse de bois qui vient de perdre son gagne-pain. Ça me fait peur quand j'entends le premier ministre dire que 50% des emplois en foresterie vont disparaître, explique cette femme qui, après avoir été cultivatrice de champignons à Petit-Saguenay pendant une décennie, avait décroché un emploi à la scierie il y a 4 ans, un emploi qu'elle adorait. Calée au fond d'une majestueuse vallée creusée par les glaciers, Petit-Saguenay est loin de tout. La ville de Saguenay est à 90 km au nord-ouest. celle de la Malbaie dont Charlevoix à la même distance au sud. À la faveur d'un maire hyperactif, le village exerce néanmoins une forte attraction auprès de nouveaux arrivants qui y débarquent depuis les grands centres du Québec, désireux de se joindre à cette communauté dynamique en pleine transition écologique. L'économie de Petit-Saguenay est donc à cheval entre ses racines, la foresterie et l'agriculture, et une nouvelle réalité. Artisanat, tourisme, plein air, télétravail, services. Où qu'on aille, dans la sublime enclave des montagnes Laurentides, une question se pose, mais demeure sans réponse évidente. Comment faire vivre un village éloigné de manière durable, sans sacrifier l'environnement? Et quel rôle jouera la foresterie à l'avenir? Il faut se retrousser les manches. Dans la cour à bois, presque vide de la scierie de Petit-Saguenay, un tracteur charrie des madriers de peupliers faux tremble. Aux manettes, le propriétaire, Frédéric Laliberté. Je l'ai tatoué sur le cœur, Petit-Saguenay, lance celui qui avait racheté l'usine en 2016. Le bois allait à son usine de Lévis qui fabrique des palettes. Mais parce que les tarifs américains ont fait chuter le prix du résineux, le peuplier n'était plus concurrentiel et la scierie perdait de l'argent tous les mois, explique-t-il. Dans la caverneuse usine, les machines dorment sous les brandissis. Monsieur Laliberté montre les travaux inachevés de modernisation qui ont coûté 8 millions de dollars. Il restait à changer le cœur de l'usine, c'est-à-dire le moteur et la transmission, explique-t-il. Au bout de la ligne, un dernier travailleur vide les stocks. « Ça fait 44 ans que je travaille dans les scieries », confie Pierre Morin. « Je vais prendre soin de moi un peu », dit le sexagénaire. « Il faut se retrousser les manches », soulignait un peu plus tôt Denis Gaudreau, le président du syndicat. « Demain, j'ai des entrevues. » Je vais me chercher de l'ouvrage, je ne peux pas rester à rien faire. Il devra aller travailler à Saguenay, à plus d'une heure de route. Madame Boudreau, elle, a trouvé un emploi saisonnier à la station de ski du Mont-Édouard, à 20 km. Je ne suis pas prête à aller travailler à l'extérieur, affirme la mère d'un adolescent qui fréquente l'école locale. Tous deux espèrent que la scierie redémarrera, mais ne comptent pas là-dessus. « Pour éviter la faillite, explique M. Laliberté, il faudra qu'un repreneur ou qu'un partenaire se manifeste dans les prochaines semaines. Il en a déjà sollicité des centaines, sans succès. Il est pas mal minuit moins une seconde. » Si le premier ministre du Québec, François Legault, suggère aux travailleurs forestiers de se recycler chez Hydro-Québec, ce n'est pas une possibilité immédiate pour les nouveaux chômeurs de Petit-Saguenay. Et ce, même si la municipalité fait partie d'une MRC qui accueillera l'un des méga-projets éoliens d'Hydro-Québec de l'autre côté du fjord. La foresterie, c'est dans l'ADN de Petit-Saguenay. On devrait pouvoir exploiter la forêt pour faire vivre les gens, dit le maire écologiste Philôme Lafrance, réélu pour un troisième mandat en novembre. Mais on est résilient et on va passer à travers, promet le maire de 43 ans. Les gens du village, habitués à composer avec l'éloignement, font toujours preuve de débrouillardise, souligne-t-il. De nombreux artisans. Au village, les petites entreprises sont effectivement nombreuses et les gens qu'elles font vivre sont plus nombreux que ceux de la scierie. Fermes laitières, culture de bleuets, maraîchage biologique, élevage de brebis, épicerie coopérative, auberge, café estival, camping, joaillerie, lutherie, poterie, ferronnerie. L'un des fleurons de cette nouvelle économie, c'est la coopérative Minuit moins 5, nommée ainsi parce qu'il se fait tard pour éviter que la planète croule sous les déchets. Ses fondatrices récupèrent les vêtements mal aimés et les revendent dans leur friperie, ou bien utilisent les textiles déchus pour fabriquer de nouveaux objets comme des sacs bananes ou des mitaines. En 2024, elles ont récupéré 4,8 tonnes de textiles dont plus de la moitié a été valorisée. Ce matin, Faustine Besnard et Claudia Cholis ouvrent la benne de vêtements à donner, qui est pleine à craquer, puis se mettent à trier joyeusement. La coopérative fondée en 2017 emploie 7 personnes. On s'est vraiment senti accueilli quand on est arrivé, dit Marielle Huard, 37 ans, l'une des cofondatrices. Si la boutique tire son épingle du jeu, explique-t-elle, c'est grâce aux touristes, mais aussi au monde de la place qui embarque avec enthousiasme dans le projet. Minuit moins 5, néanmoins, ne roule pas sur l'or. Même si elle y met tout son cœur, Mme Huard n'en tire pas un salaire suffisant pour acheter l'une des rares maisons disponibles à Petit-Saguenay. Résultat, elle habite à Chicoutimi, fait beaucoup de routes, dort 2 ou 3 nuits par semaine chez des amis. « Je ne peux pas faire ça encore pendant trop longtemps. Je vais exploser. » C'est une réalité connue dans les places touristiques, mais c'est pénible, dit-elle. Dans le local d'à côté, le forgeron David Gaudreau travaille une pièce de fer sur son enclume centenaire. Des étincelles jaillissent. « Quand je travaillais pour les forestières, il y avait un choc des valeurs, » explique cet ancien technicien forestier. « À un moment donné, tu te demandes ce que tu veux, faire un maximum de fric ou avoir une vie. » Lui et son amoureuse, la potière Kathleen Bergeron, ont choisi la seconde option pour élever leurs enfants, qui ont aujourd'hui 16 et 18 ans. Le couple vit maintenant en liberté, en tâchant de ne pas s'endetter, de rester le plus petit possible pour entretenir son indépendance. La sobriété et l'écologisme sont au cœur de son projet. Depuis 2020, les deux artisans s'impliquent à fond, bénévolement, dans les sommets du fjord, un nouveau réseau de skis de montagne directement adjacent au village. « Quand il y a une tempête, je sors de l'atelier et je vais skier. On est plusieurs à faire comme ça ici », dit M. Gaudreau. D'un bout à l'autre de Petit-Saguenay, personne ne croit que la foresterie ait dit son dernier mot. Mais tous s'entendent pour dire que l'exploitation devra être durable. Je comprends qu'il y a des débats sur l'écologie, mais le bois, quand c'est bien géré, c'est une belle ressource, affirme Myriam Boudreau. L'avenir économique de ce village éloigné passera certainement par la diversité, mais aussi par une certaine sobriété, bien en phase avec la paisible nature qui l'entoure. C'était « Le village de Petit-Saguenay doit se réinventer après la fermeture de la scierie », un texte d'Alexis Riopel paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir.